Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Allez, c'est parti. Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur soi, son regard sur le monde, à travers des expériences de vie, à travers toutes ces rencontres qu'on fait en voyage sur les routes. Et donc j'aime bien donner la parole à des écrivains, des réalisateurs, des photographes, des aventuriers. Toi, je crois que t'es un peu tout à la fois. En tout cas, écrivain, aventurier sans doute, conteur, intéressant. On t'a entendu hier soir ici au Mantra Joie nous raconter quelques-unes des pépites que t'as cueillies sur les chemins du monde. Donc voilà, l'idée c'est de prendre le temps de te rencontrer, Arnaud, donc Arnaud Pelletier, avec nous sur la table, un bouquin Gratitude, on en parlera, carnet d'un acteur pèlerin sur les chemins de Compostelle. Donc c'est un sujet qu'on abordera aussi, parce que Compostelle, ça fait quand même partie des grands chemins connus en France, de tous ceux qui veulent redonner du sens, en quête de quelque chose en tout cas. Enfin, on rencontre vraiment plein de gens, toute l'humanité est sur ce chemin. Mais pas que. Donc Arnaud, toi, qu'est-ce qui t'a amené, on va revenir un peu en arrière, à avoir envie de te mettre en mouvement? Voilà, parce que j'entends que tu incarnes le mouvement. Donc quand est-ce que tout ça a commencé? Est-ce que c'est lié à ton itinéraire familial, personnel? Quand est-ce que tu t'es dit, ben tiens, je vais essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs et aller à la rencontre de cet autre et de cette humanité?
Waouh. Quelle question. Non, je sais pas. Si, je me l'étais posé quand même cette question. On se la pose quand on voyage, on se demande aussi pourquoi on part et pourquoi on revient. Je pense que c'est des questions qu'on se pose toujours. On se demande d'ailleurs toujours, est-ce qu'on n'est pas en fuite de quelque chose? Le vadrouille, en fait, je crois que je l'ai toujours eu, mais même tout petit, même dès l'âge de 3 ans, on me retrouvait au bord de la rivière, j'avais traversé la ville, je voulais aller voir les canards, quoi. Donc, et j'emmenais en plus mon frère, ma sœur, avec tout ça. J'avais vraiment ce truc-là de tirer, j'ai toujours un peu tiré les gens par la manche pour les emmener aller voir un coucher de soleil ou quelque chose, j'avais vraiment ce truc, et même très souvent, en fait, c'est un peu... Je peux pas dire ça. Merde, comment je peux dire ça pour... Je sais pas, je sortais de pisser 2 secondes, quoi, tu vois, et en fait je revenais 3 heures après. Parce qu'il y a. C'est joli, mais il y a quoi derrière? C'est un bois. Et puis après, ah, mais là ce chemin il va où? Et donc cette chose-là, cette curiosité, voilà. Je crois que j'ai une curiosité. Je crois que Dieu m'a donné ce cadeau d'avoir cette curiosité. Et une curiosité qui est sans aucun préjugé, sans aucun jugement. Ça, c'est un cadeau parce que j'ai compris qu'on n'est pas tous avec ce truc-là. Et donc je peux aller vraiment dans découvrir des gens, des univers, des communautés sans aucun...
Une curiosité mais aussi un peu d'audace, hein, parce qu'il faut se mettre en mouvement, des fois ça nécessite de sortir de sa zone de confort et y aller.
Alors, je crois qu'il y a des fois, un jour mon maître de compte qui nous a quitté l'an dernier, il s'appelle Henri Gougaud, je me souviens, il nous avait dit « si tu ne peux pas vaincre, il faut fuir ». Et ça peut paraître bête comme petite phrase, mais je la trouve très utile. Et moi, il se trouve que par rapport à ce que je suis, comment je suis, ma psyché, ma manière d'être, ma manière de vivre, il se trouve que là où je suis né, en fait, au début, j'ai pas eu les outils pour m'exprimer, pour trouver ma place. J'arrivais pas. J'étais un enfant très réservé, très timide, complètement introverti, comme ça. C'est bizarre, hein, je suis devenu conteur. Et ce qui fait que je pense qu'en premier lieu de partir, il y avait ce truc de quête de soi et puis aussi de respirer, de se rencontrer. Il y a eu ce truc-là. Donc d'une certaine manière, une fuite aussi qui est là, parce que je ne trouve pas ma place là où j'ai grandi. Et avec dès lors, quelque chose à guérir, parce qu'on part avec une blessure au fond de nous, en fait. Et qu'on met plus ou moins de temps à rencontrer et puis à guérir pour trouver sa place et être soi-même à chaque instant, qu'on soit un repas de famille à Noël ou d'un seul coup, là on est en mantra joie où il y a tout le monde qui chante « Je t'aime, je te demande pardon, je suis désolé, merci ». Et donc voilà, je pense qu'il y a eu ça. Et puis, maintenant j'ai passé la quarantaine, donc ce qui fait que je regarde aussi un peu derrière moi et je comprends un peu mieux aussi, alors il y a plein de choses que j'ignore encore, hein, mais de ce que je suis. Et je crois qu'il m'avait fallu ce tour d'horizon pour faire toutes ces rencontres, parce que là en fait ce que je partage, le cœur de mon travail, c'est de partager ces rencontres merveilleuses que j'ai faites à travers mes voyages. Et je crois même que même mon incapacité à trouver ma place étant enfant en a fait partie de ce chemin-là. D'un seul coup, c'est même devenu ma force, ce qui était ma faiblesse. Et que finalement, même mon cocon familial, en fait, il était parfait pour devenir celui que je suis devenu. Alors ça, bien sûr, on met du temps à le découvrir. Et voilà, pour moi, enfin, je sais pas du tout si je réponds aux questions.
Non, mais c'est très bien. Donc, on parlera effectivement de ce métier que tu t'es créé, conteur. Déjà, est-ce que c'est un vrai métier ou pas? Est-ce que tes parents ont cautionné ce métier-là, ce chemin-là que tu as choisi? On parlera de mouvement, de voyage, d'anecdotes de vie aussi, parce que quand on compte, on raconte. Et on raconte aussi soit des histoires qui ont été écrites par d'autres, soit des histoires qu'on écrit soi-même, liées à un parcours, à un itinéraire, ou encore une fois à ces rencontres qu'on va faire sur le chemin. Donc voilà, à quel moment tu as su que tu voulais devenir conteur? Parce que tu disais que tu avais un peu du mal à trouver ta place au monde en étant jeune. Et il y a quand même cette pression qui est des fois familiale, des fois sociale, de trouver sa place. Et c'est pour ça qu'on observe souvent cette quête de sens aussi, qu'on retrouve sur les chemins quelquefois. Beaucoup de gens qui sont sur le chemin pour mettre cette notion de sens dans sa vie. Donc toi, voilà, comment est-ce que tout ça est arrivé? Quand est-ce que tu as su que tu voulais être là, face aux autres et alors raconter des histoires que tu avais vécues ou que tu avais envie de partager?
Alors c'était pas du tout mon truc, hein, vu que j'étais timide, et en plus j'étais dernier de la classe en français, moi mon truc c'était les maths et la physique, ce qui fait que, voilà, enfin, que ça soit écrire ou prendre la parole, non, j'écris des bouquins, je raconte des histoires, mais c'est la vie. Je crois que j'ai décidé d'interpréter certaines choses de la vie comme un message. Voilà, j'avais ça. Il m'est arrivé une expérience un peu bizarre, un peu étrange quand j'avais 19 ans. Quelque chose qui m'est jamais, je l'ai jamais eu deux fois. Enfin voilà, c'était une nuit très spéciale. Je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails. J'en parle d'ailleurs un peu dans Gratitude vaguement, un peu au début.
Comme si on... Mais sans rentrer dans les détails, je veux bien quand même. Parce que là, tu fais un teasing de fou, quoi.
C'est un peu délicat, c'est que c'est tellement intime. Je ne vous connais pas, vous qui m'écoutez. Je ne sais pas comment cette histoire va être reçue. Là, je demande de me mettre à cœur à nu. C'est quand même très délicat, mais voilà, une expérience un peu autre, avec voilà, comme des visions, des choses bouleversantes, hein, vraiment qui m'ont bouleversé sur le coup. J'avais 19 ans, j'étais en Irlande, j'apprenais l'anglais. Et j'ai reçu comme un message qui était pour moi d'aller me tourner vers le théâtre. Et j'ai fait quoi, le théâtre, ce truc de tous ces gens qui ont un peu de charisme et qui sont ta-ta-ta-ta-ta-ta, on leur dit « Ah, t'es drôle, tu feras du théâtre ». J'ai fait quoi ce truc-là? Et donc j'ai commencé, mais par rapport à cette quête. Parce qu'en fait, moi, cette nuit-là, c'était une nuit... je pense qu'on a tous des moments sans lendemain un peu différents où il se passe quelque chose très très fort. Le lendemain n'est plus le même, en tout cas, qui change notre destinée. Et moi, je suis parti en quête sans savoir ce que c'était d'un théâtre sacré.
Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors, ce que j'entends en t'écoutant, c'est que tu n'étais pas forcément prédestiné à prendre la parole en public. Tu me dis que tu étais plutôt bon en physique, chimie, mathématiques. Et tu te retrouves à faire du théâtre après avoir été touché par une forme de grâce, ou en tout cas par une expérience un peu mystique, où tu t'es dit « bon allez, maintenant j'incarne réellement ce qui m'habite, ce qui m'anime ». Donc là, je te rencontre dans le cadre de ce festival. Donc hier soir, tu contais des histoires de voyage. Donc je m'intéressais à Arnaud, le voyageur. Donc là, on est encore 19 ans, tu pars en Irlande, tu apprends l'anglais, ce qui est déjà un super outil pour pouvoir se mettre sur les routes du monde.
Bien vu, très bien vu. Ça a ouvert beaucoup de portes, effectivement. Et en fait, c'est que moi, j'avais soif d'apprendre. Je voulais tout, mais gargantuesque. Je voulais tout apprendre. Et vu que j'étais encore nul en langue, l'expression, les émotions, tout ça, je me disais, je parle pas un mot d'anglais, ça me servira toujours. Et plutôt que perdre une année dans une fac que j'étais pas sûr de vouloir faire, que si c'était ça ou autre chose, apprends l'anglais. Je suis rentré en France, j'ai fait médecine après. Pas très longtemps. Et après, c'est là que j'ai fait, ok, vas-y. C'est vraiment le théâtre, et je m'y suis mis. Mais vu que moi, j'avais reçu dans cette épiphanie, dans cette grâce, comme tu dis, je trouve que c'est un très joli mot pour en parler, J'avais reçu ce message qu'il fallait que je cherche un théâtre sacré. Sauf qu'il y a un contexte français très particulier qui est, mais juste chez nous, hein, partout ailleurs, tu vas dans le monde, si t'as du théâtre, il va incarner la mythologie. En Inde, on danse, on incarne les dieux, tu vas dans d'autres, c'est la transe, on danse tout le temps la mythologie. Et la mythologie, c'est la spiritualité locale. La spiritualité locale. Et donc, chez nous, ça serait jouer la vie du Christ ou la vie des saints ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout dans la culture populaire. Il y a eu un peu à une époque, mais c'est pas un truc vivant. Et moi, j'étais animé par ce truc-là. Je sais pas comment, j'en sais rien. Mais ça m'animait. Et donc, vu que je le trouvais pas chez nous, je suis parti ailleurs voir comment ça se fait. Pour avoir du visible, pour avoir des maîtres vivants devant moi, pour qu'on me montre des chemins, en fait, parce que j'étais minot, quoi, comment on va faire ?
Et donc toi, le voyage, c'est oui. Une manière... Enfin, t'avais déjà un fil rouge, t'étais pas simplement parti avec ton sac à dos pour explorer le monde, tu savais pourquoi
jamais.
Tu partais.
Jamais, je suis toujours parti rencontrer tel maître dans telle école de danse. Après, c'était en Inde, le Kathakali, donc je faisais la danse sacrée avec les arts martiaux, le chantrade. Après, c'était l'Afrique avec la culture mandingue, apprendre plus les percussions, la danse, essayer de rencontrer aussi un petit peu, pour le coup, les griots, c'était la première un peu esquisse liée au conte. Au Mexique, c'était beaucoup le théâtre. Après, voilà, c'était toujours à chaque fois comment se rencontre une tradition artistique avec une spiritualité.
Ouais, nous, la spiritualité, on l'a un petit peu balayé avec le mode de vie capitaliste. Hein, on a donné finalement le pouvoir non plus à Dieu, mais à l'argent. Et finalement, dans le conte, c'est quelque chose qui a toujours existé de tout temps. Hein, quand on remonte même à l'époque de l'homme des cavernes, déjà sur les parois, on dessinait des histoires, des aventures, des épopées. Cette transmission a toujours existé. Et quelque part, je trouve qu'aujourd'hui, ben, c'est quelque chose dont on a besoin plus que jamais, de se souvenir de nos origines. Et je pense que le conte permet ça.
C'est la voix d'Henri à travers moi, je pense, qui parle là. Et elle m'a fait tellement de bien, cette parole. Je me souviens, il me disait, si on raconte des histoires, si on est des conteurs d'histoires, si on raconte une histoire, c'est qu'on pense que cette histoire, elle a un sens, en fait. Voilà, elle tient debout, quoi. Il y a un début, une fin. Je te raconte quelque chose qui a du sens. Et c'est parce que les conteurs d'histoires sont de ces genres de personnes qui ont le sentiment que la vie a un sens. Peut-être on le connaît pas, peut-être on le saura jamais, mais en tout cas, on le cherche.
C'est aussi une manière de partager de la sagesse.
Ça fait beaucoup de choses, hein, les histoires, parce qu'on transmet. Alors moi, en plus, là, ce que je fais, c'est même plus que des histoires, c'est des héritages. En fait, c'est des héritages de vie, c'est des clés que des personnes ont trouvées et ils me les ont confiées. Parce qu'une histoire, c'est quoi ? C'est un enchaînement, en fait, d'événements. On avance comme ça, quoi. Et en fait, notre vie est un enchaînement d'événements. Notre vie est une histoire, notre âme a une histoire. Et donc, forcément, interroger les histoires, c'est interroger sa propre histoire et sa destinée, son chemin. Donc, effectivement, on est dans cette quête de sens. Et le chemin de Saint-Jacques est quand même un merveilleux outil, pour le coup, c'est un merveilleux outil à notre époque, comme tu disais, qui est ce qu'elle est, de pouvoir aller tranquillement chercher du sens, sans trop se préoccuper intellectuellement du nom qu'on va lui donner ou de sa forme. Et c'est un grand cadeau, et c'est pour cela que j'en parle beaucoup dans mon bouquin, dans mon spectacle. C'est pour ça que je fais des spectacles sur le chemin de Saint-Jacques. C'est que pour moi, c'est un merveilleux outil pour notre culture. Parce que les gens arrivent de partout, ça parle toutes les langues, il y a toutes les croyances qui sont là. Et pourtant, dès qu'on met le pied sur ce chemin, chacun se rend compte.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Allez, je veux bien qu'on prenne le chemin de Saint-Jacques dans cette partie de l'émission. Donc toi, Arnaud, sur le bouquin, le titre, donc Gratitude, il écrit Carnet d'un acteur pèlerin sur les chemins de Compostelle. Ça veut dire quoi, ça, un acteur pèlerin ? Qu'est-ce que c'est déjà qu'un pèlerin ? Et qu'est-ce que tu as vécu comme expérience ? Parce que moi, on me disait en off, là, on me disait, il y a un gars qui va raconter des histoires ce soir. Il a fait Compostelle, il raconte des histoires à chaque étape. Voilà, tiens, ça peut être intéressant de donner la parole à ce garçon.
Oui, j'ai fait ça, je sais plus, sur 2-3 000 kilomètres, quoi, de marcher sur Saint-Jacques et le soir de partager des histoires et des spectacles à ce moment-là. De les auberges, des fois c'était avec les mairies, sur les places des villages ou dans des salles de spectacle, enfin ça dépendait, voilà, de chaque situation, quoi. Alors moi j'ai trouvé ça merveilleux. Alors Acteur Pèlerin, on m'a baptisé hein, comme ça parce que j'étais pèlerin et que d'un coup j'avais un spectacle et donc on m'a dit bah tiens t'es Acteur Pèlerin et j'ai trouvé ça rigolo. Parce que finalement toute ma vie, vu que j'avais voyagé pour apprendre ce théâtre du sacré, j'étais quand même toujours un peu en pèlerinage avec cette quête. Et moi ça me permettait d'être en état de pèlerinage, de faire des rencontres et en même temps de partager des histoires. Donc il y a ce truc un peu émetteur-récepteur que je trouve assez merveilleux. Et en tant qu'acteur pèlerin, enfin moi je suis devenu acteur pèlerin du jour au lendemain, enfin ma vie est devenue un conte de fées. Enfin ça a été merveilveux tout de suite. Enfin j'ai compris, enfin tu fais mais oui, enfin l'évidence quoi, tiens. Et ce qui fait qu'en même temps, bah à la fois je partage des histoires le soir et tu vois Gratitude là qui est juste là, c'est toutes les rencontres que j'ai fait, c'est tout ce qui s'est passé sur ce chemin. Donc finalement, je partage des choses en même temps, j'en reçois que je peux repartager plus tard. Enfin pour moi, c'est vraiment un art de vivre ce chemin d'être acteur pèlerin quoi.
Ma vie est devenue un conte de fées. Ça veut dire quoi ça, ma vie est devenue un conte de fées? Parce que on peut le souhaiter à tout le monde.
Alors, il se trouve déjà que dès qu'on se met sur le chemin, c'est sûrement dû au fait qu'on est plus attentif au message de la vie, aux autres, à soi-même, à ses émotions, à ses pensées, parce qu'on est sorti de la routine, les clés de la bagnole elles sont restées au Puy-en-Velay, et on a du temps. D'un seul coup, il y a un dialogue intérieur. Moi, ce que j'aime beaucoup sur le chemin de Saint-Jacques, c'est que tu peux voir n'importe quelle personne et tu lui dis, c'était quoi ta leçon aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as appris? Il te dit tout de suite qu'est-ce qu'il a appris. On redevient tous des enfants. Mais c'est merveilleux. Chaque personne dit, ah aujourd'hui j'ai appris ça. J'ai appris mes limites. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Donc il y a cet état-là qui est bien sûr très fort. Et donc ce qui fait que ça crée toujours forcément des espèces de synchronicité où tu vas rencontrer la bonne personne au bon moment qui va te transmettre un message, une parole, où dans ce coup tu es perdu, tu vas trouver le bienfaiteur qui va... Voilà, il y a une espèce de film qui se déroule. Et moi en plus, en étant acteur pèlerin, ce qui fait que j'ai ce film-là qui se déroule, et en même temps, je vais raconter des histoires, je vais en recevoir d'autres, ce qui fait que d'un seul coup, l'intensité va être vraiment très très forte. Enfin, j'ai raconté hier cette anecdote assez rigolote où je suis en tournée avec le Petit Prince dans mon sac à dos, je me perds sur le chemin de Saint-Jacques, j'arrive dans les vignes, j'avais pas de téléphone, pas de GPS, rien. Je vois une vitrine, je frappe à la porte, j'entre et je tombe face à cette statue du Petit Prince en porcelaine. Et en fait, j'étais arrivé chez la famille Saint-Exupéry. Et alors que moi, je joue le Petit Prince depuis 2-3 semaines dans mon sac à dos, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin voilà, c'est que des petites choses comme ça qui rendent la vie savoureuse, en fait.
Et je veux bien ton regard que tu poses sur ces synchronicités, hein, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de synchronicité. C'est quoi? Comment ça fonctionne, tout ça? Pourquoi est-ce que tu as le Petit Prince dans ton sac et tu te retrouves chez la famille Saint-Exupéry? C'est quand même incroyable. Et quand on va écouter les parcours des uns et des autres, on a tous des synchronicités qui ne peuvent pas être le fruit du hasard. Je crois que c'est Gounel qui disait le hasard, c'est Dieu qui se déguise pour voyager incognito. Je trouve ça très beau. Donc voilà, comment toi, tu expliques ces synchronicités? Qu'est-ce qui se passe?
Alors moi, j'explique rien du tout. J'aime pas du tout expliquer. Je préfère laisser ça au psycho. Il y a Jung, c'est Jung qui a créé ce mot-là. Hein. J'essaie d'être un peu plus pragmatique et d'utiliser en fait. Un jour on m'a dit ça et j'ai fait, c'est vrai que c'est bien en fait d'être plutôt pragmatique et d'utiliser les choses plutôt que de vouloir les expliquer. Donc je me le suis vraiment approprié ce truc là. Et un jour il y a quelqu'un, il m'a dit, j'étais très jeune, j'étais pas encore capable de bien comprendre ce qu'il voulait me dire, alors que c'est très simple ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, tu sais Arnaud, la vie c'est simple, hein. Il suffit de demander. Ah bon? Oui, tu demandes quelque chose, tu le demandes. Mais, enfin, à qui? Bah, à qui tu veux. Tu fais, tiens, j'aimerais ceci, ou je demande cela. Ah bon? Mais tu reçois toujours? Ah oui, toujours. Et tu peux me demander, il me dit, c'était très drôle, même pour les choses du quotidien, une place pour te garer, par exemple. Mais, n'oublie pas, laisse au moins 5 minutes pour que Dieu, ou comme tu as envie de le nommer, puisse un peu préparer la situation. Mais surtout, quand ça arrive, n'oublie pas de remercier. Et moi, bien sûr que j'ai des questions, j'ai des demandes, j'ai des interrogations, j'ai un chemin qui s'interroge, j'ai un amour qui est en moi, qui veut s'exprimer, qui veut prendre des formes. Et je suis attentif à mon chemin. Et je suis attentif aussi à ce que je suis moi personnellement. C'est-à-dire que, à pas essayer de faire... Il y a ce dicton, un jour j'ai trouvé, c'était sur un sac plastique, ou sinon un sac en papier, il y avait écrit, je sais plus de qui est cette citation, mais « Trouvez votre place, parce que de toute façon toutes les autres sont déjà prises en fait. Mais » Mais c'est ce truc-là, et j'en reviens beaucoup avant, c'est quand, bref, en ce moment je travaille avec ces histoires dans Rue Gougo, donc je suis beaucoup habité par lui en ce moment. Là, ça fait un an qu'il nous a quittés, en fait. Donc voilà, il y a ce cycle qui est là. Et je me souviens très bien du jour où je l'ai rencontré. J'entrais dans son atelier. Il dit, Arnaud, ici, on n'est pas là pour... Je ne vais pas vous apprendre ici comment est-ce qu'on devient conteur. C'est quoi la posture, le regard, les silences, créer le suspense, non. Ici, c'est un chemin d'épuration, d'appauvrissement de tout le superflu, de tout ce qui nous encombre et qui nous éloigne de nous-mêmes. Car lorsqu'on devient soi-même, alors nos histoires prennent du sens. Complètement. Et de ce que je crois comprendre, ce qui parle là dans ce que je fais, de ce que j'ai cru comprendre, enfin, tu vois, des retours, parce que moi, j'ai fait que suivre le fil, en fait. Tu parles de synchronicité, mais moi, j'ai fait que suivre ça depuis le début, en fait. Ça fait 20 ans que je fais ça. Et c'est sûr que d'un coup, quand on s'incarne, t'as envie de dire « Les gars, suivez vos rêves, mais allez-y à fond, quoi. Il n'y a rien qui doit pouvoir vous arrêter, quoi. Aucune peur, aucune raison émotionnelle, familiale. Personne ne peut vous empêcher. C'est votre jardin intérieur. On est responsable, en fait. On est responsable de ça. Faut pas l'oublier. Et il faut y aller à fond et il faut y croire jusqu'au bout, parce que finalement, chaque épreuve qui arrive, elle est que là pour te faire encore grimper, pour te transformer, pour te permettre d'acquérir ce qui te manque encore, en fait. Et faut continuer jusqu'au bout, quoi.
T'as dit deux choses, là. T'as dit arrêter de chercher sa place, créer sa place, parce que toutes les autres sont déjà prises. Et tu disais aussi cette notion de rêve, vivre ses rêves. Arrête de rêver ta vie, mais vis tes rêves. Et oui, complètement. Hein, cette notion de sens aussi. Aujourd'hui, on se retrouve des fois à s'adapter ou à se suradapter à un système, à un réseau familial, professionnel, et on oublie nos rêves, on oublie de nourrir nos rêves, et on oublie de trouver notre place ou de créer notre place dans ce monde. Mais il y a aussi cette réalité. Tu me posais la question avant, tu gagnes de l'argent avec les podcasts. Il y a aussi cette réalité économique. Donc, marcher sur Compostelle et raconter des histoires. Comment on fait pour répondre finalement aux contraintes matérielles qui sont bien réelles dans notre monde?
Je crois que c'est juste porté par la grâce, parce que je tourne qu'à l'amour. Mais vraiment, hein, c'est partout où je joue, c'est que grosso modo des gens qui m'aiment et qui m'aident. Donc des fois j'ai des mécènes qui m'aident. Il y a des personnes, c'est pas leur métier, qui vont aller diffuser, vendre des spectacles, qui font des heures de route, alors qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont une entreprise, par exemple. Mais ils se disent, les histoires d'Arnaud, je veux que des gens écoutent ça, ça fait du bien. Et enfin, voilà. Et effectivement, ça ne fonctionne que comme ça. Alors après, j'ai envie de, pour utiliser une expression bien notre société, je suis un bosseur. Enfin, tu vois, je m'arrête jamais. Enfin, tu vois. Mais ouais, je crois que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, vraiment. Et je reçois vraiment beaucoup d'amour. Et il y a beaucoup de gens qui m'aident et qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main et qui m'ont poussé plus en avant. Et je crois qu'en premier, il faut aussi croire en soi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Arnaud Pelletier, je reviens un peu sur Compostelle. Tu me disais 2 ou 3 000 km à pied en racontant des histoires. Raconte-nous un peu ce chapitre-là de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire faire Compostelle? Est-ce que c'était, combien de temps ça a duré? Est-ce que ça dure encore? Et parle-nous aussi de ton bouquin, de ce qu'on va y retrouver à l'intérieur.
Alors ça dure encore, oui, là, en septembre. Alors là, ça sera plus court parce que j'ai décidé cette année de faire une aventure collective. D'habitude, je suis tout seul. Et là, j'avais envie de partager. Et donc on part une semaine, du 5 au 12, on sera sur la voie du Puy, entre le Puy-en-Velay et Nazbinals. Et c'est comme un petit festival de l'oralité, itinérant. Tous les soirs, il y a un spectacle différent, on est 6 artistes différents. Et tous les après-midi, il y a un petit atelier itinérant aussi. Et c'est aussi voilà, pour se rencontrer, donc il y a aussi plein d'invités qui vont passer, à mon avis. À chaque coin de petite pause, il y aura des petites créations. Voilà, j'avais envie d'être un peu en groupe. Partager une aventure plus collective. Avant, j'étais seul. Qu'est-ce qui...
J'ai du mal à imaginer, parce que Compostelle, effectivement, il y a plein de monde sur ce chemin. Mais tu arrives un soir, et qu'est-ce qui se passe? Tu dis à l'aubergiste, okay. Bon, allez, on arrête tout, préparer une scène, je vais te raconter des histoires, okay. Ou comment ça se met en place?
Alors, en fait, chaque année, parce que là, je fais ça depuis 2019, et même le premier pèlerinage, c'était en 2010. Là, j'avais juste de la musique. Chaque année, j'ai varié un peu la formule. La première année, c'était avec Le Petit Prince, et c'était complètement improvisé. complètement improvisé. J'ai vu ce message de ce gamin où d'un seul coup un enfant de 7 ans me révèle ma vocation et me fait comprendre l'importance de ce spectacle.
Et quand tu dis Le Petit Prince, explique-moi aussi, tu racontes l'histoire de Saint-Exupéry ou c'est quand tu dis je compte Le Petit Prince ?
Je joue Le Petit Prince de Saint-Ex. Ouais, je fais tous les personnages, je suis l'aviateur des années 20, et j'arrive avec un avion en papier, et je me scratche dans le public, et après je répare mon avion, et je fais connaissance avec le public qui est là, et je leur raconte une rencontre, comme d'habitude, il y a 6 ans, dans le désert, avec un petit madame. Voilà. Et tous les personnages, je fais tous les personnages, il y a de la musique, voilà, ça dure une heure. Et donc c'était ce spectacle-là qui était tout récent, je l'avais joué 3-4 fois. Et j'ai un enfant de 7 ans qui, après un spectacle, je passe dans les classes et qui me dit: c'est très important ce que vous faites, monsieur. C'est très important de nos jours de rappeler à tout le monde que l'essentiel est invisible pour les yeux, qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors moi, ça m'a bouleversé, et donc quand je suis rentré en France, j'ai pensé à cet enfant et j'ai dit: je vais partager cette histoire. J'ai mis le costume dans mon sac à dos et je suis parti sur les routes de Saint-Jacques. Mais là, c'était complètement improvisé. Et il y a tellement eu cette magie, cette évidence aussi de... Mais moi, de mon équilibre personnel, où je suis à la fois très solitaire et très social. Je passe ma journée avec les fleurs, mes prières, mes textes, je marche la journée, gratitude, gratitude. Le soir, j'ai ce surplus de gratitude à offrir parce qu'il y a un public qui m'attend. Alors au début, c'était complètement improvisé. Donc c'était au hasard des rencontres, c'était sous un arbre, c'était le soir dans un gîte, c'était sur une petite place où il y avait une rencontre. Attendez, il y a les voisins qui prennent l'apéro, on va les inviter. Et ça s'organisait comme ça. Et puis petit à petit, après, ça s'est organisé en amont avec les mairies, avec la région, avec le parc, avec l'agence des chemins de Saint-Jacques qui m'aide beaucoup. Et donc maintenant, à la fin de mes 4-5 heures de randonnée, des fois il y a 80 personnes qui sont là et qui attendent mes histoires, les histoires de l'acteur pèlerin qui est venu à pied jusqu'à eux.
On a compris que tu racontes des histoires, et je vais peut-être te demander pourquoi les gens ont besoin d'avoir des conteurs. Pourquoi est-ce que les gens ont besoin d'histoires? Parce que quand tu es sur Compostelle, tu as un public. C'était pas prévu. Ta venue n'était pas prévue. Et pourtant, il se passe quelque chose. Les gens sont là pour t'écouter. Pourquoi les gens ont besoin d'entendre des histoires?
J'en sais rien. C'est une très bonne question. Attends, mais je me la pose. Moi, je sais que j'aime bien quand on me raconte des histoires. Et je crois que je crois que j'offre ce que j'aimerais qu'on m'offre. Je crois que c'est ce truc-là, c'est cet élan-là qui me pousse, moi. Et ces histoires que je partage, c'est ce que j'aurais aimé, moi, en grandissant en France, qu'on me transmette, en fait. Parce que là, c'est des humains. Alors, c'est des humains qu'on grandit chez nous, puis aussi des humains qui étaient sous d'autres latitudes, qui avaient un regard sur le monde, un art de vivre complètement différent, et qui m'ont fait beaucoup de bien, qui m'ont aidé. Et donc, voilà, c'est ce que je partage à mes contemporains. Mais en vrai, je sais pas.
C'est un peu la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, quelque part, c'est incarne ce que tu as envie de voir autour de toi. Donc, raconter des histoires. Et on a parlé aussi du voyage et du mouvement. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi, le voyage, le mouvement? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton itinéraire de vie?
On vit une planète fabuleuse, merveilleuse. Partout dans l'espace, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment la vie, quoi. Enfin, le plus proche qu'on a, on n'en a pas vraiment trouvé. Et notre planète, elle regorge d'insectes, de fleurs, d'oiseaux, de champs, de couchers de soleil prodigieux et d'humains. Enfin, moi, c'est je compte, mais j'ai pas les mots. ça me touche, cette beauté. Je suis beaucoup ému par la beauté. Et c'est important d'aller la rencontrer aussi, aller la voir où est-ce qu'elle est. Et bien sûr, il y a notre monde intérieur qui, lui, est fabuleux. Tu sais, on pourra peut-être conclure là-dessus, mais je rentrais d'Afrique, un voyage très difficile. J'ai pas le temps de te raconter toute l'histoire, mais j'étais pas très bien. Je me demandais un peu pourquoi j'étais parti. Enfin voilà, c'était vraiment un voyage qui n'avait pas été évident. J'étais très jeune, bref. Et je me retrouve dans ce train qui, et à l'époque, j'étais très jeune, donc quand tu rentres de voyage, tu reviens chez tes parents. Voilà. Et c'était à Bourges, donc je fais Paris-Bourges, c'est 2 heures. Et j'arrive dans ce petit wagon. Tu sais, des fois, t'as le couloir sur le côté, et puis les cabines, on est 6-8 là. C'est en souk-là. Et on était un peu que de, entre 20-30 ans là-dedans. Et moi, j'avais mon djembé que je ramenais du Sénégal. Et il y avait quelqu'un qui avait un snowboard qui rentrait de Suisse. Et aussitôt, ça commence un peu à parler voyage. Puis chacun commençait à dire: ah, mais toi, t'as voyagé, mais où est-ce que tu es allé, tout ça. Et chacun, pendant une heure et demie, 2 heures au total, raconte ses petits voyages. Et à l'angle, là, contre la vitre, longs cheveux, barbe broussailleuse, chemise à carreaux, c'est terne, silencieux. Et d'un seul coup, tous les regards se tournent vers lui. Et toi, alors, est-ce que t'as voyagé ? Moi, je suis jamais sorti des frontières de la France. Mais ça serait bien dommage d'avoir fait le tour du monde et d'être passé à côté de soi-même.
Merci, merci Arnaud.
C'était une belle leçon pour moi. Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.